Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse consacré cette semaine à l'environnement. Vaste programme, comme dirait l'autre. Et pour en débattre, j'accueille Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse. Bonjour Michel.
Bonjour.
Laurent Dominati, diplomate, homme de médias, directeur du site lesfrançais.presse et président de l'association Sauver la Méditerranée. Bonjour Laurent Dominati.
Bonjour.
Parmi nous également François Casasoprane, fondateur du mouvement Éco. Bonjour François.
Bonjour.
Alors nous allons partir d'un tout petit peu plus loin que d'habitude pour revenir en Corse, mais s'agissant d'environnement, tout est intimement lié. Direction l'Égypte et Sharm el-Cheikh qui accueille depuis le 6 novembre la 27e conférence de l'ONU sur le climat, soit la COP27. Quelques 200 pays vont défiler au chevet de la planète durant 2 semaines avec pour objectif de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts. Selon le patron de l'ONU, Antonio Guterres, la conférence, je cite, « doit poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse maintenant et pendant cette décennie qui décidera si le combat pour le climat est gagné ou perdu ». On a une petite idée. Les émissions de gaz à effet de serre doivent en effet baisser de 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. La communauté scientifique semble dire que pour cet objectif-là, c'est fichu. Si les engagements étaient tenus, nous serions au mieux sur du 2,4 degré, voire du 2,8. Alors que peut-on espérer de cette COP27 qui se tiendra sans le président chinois Xi Jinping et Joe Biden qui lui passera faire un petit coucou le 11 novembre. On parle quand même de deux pays qui ne sont pas des petits joueurs en matière de pollution. Laurent Dominati.
Je pense qu'on peut en attendre autant que les précédentes. Ça veut dire de grands discours. Pour être sérieux sans être dramatique, je crois qu'on fait que ça ne peut pas marcher. On peut faire la COP35 ou la COP151. Ça ne peut pas marcher pour des raisons qui me semblent en fait assez évidentes. C'est qu'il y a un décalage total entre les besoins des peuples actuels, et qui se reflète dans les soucis des gouvernements, et les projections du climat dans 10, 20, 30 ou 50 ans. Fût-il appuyé par le secrétaire général de l'ONU, le président de la République, l'Union européenne, les scientifiques et tout ça. Si je vous dis demain, si je vous dis aujourd'hui, vous avez à choisir entre diminuer votre consommation d'eau ou ne pas avoir de pompe pour tirer l'eau du puits et donc économiser de l'énergie parce que demain vous allez avoir soif ou bien mettre votre pompe et tirer de l'eau, eh bien je pense que la plupart des gens dans le monde, en Asie, en Afrique, même aux États-Unis qui sont pourtant extrêmement riches, en Chine, préfère pomper l'eau tout de suite. C'est un peu comme vous arrêtez de fumer, si vous voulez. Hein, on vous dit, eh ben, attention, dans 30 ans, tu vas avoir un cancer. Ok, d'accord, oui. Passe-moi une cigarette. C'est un peu ça. Donc, on essaye de dire aux gens, serrez-vous la ceinture demain, en oubliant que certains d'entre eux ont déjà faim. En Afrique, ils ont faim. Ils ont un manque d'eau. Il y a un Africain sur deux qui a accès à l'énergie. Et vous allez leur dire... Non, mais attendez, là, il faut sauver la planète. Et donc, il y a un discours qui ne peut pas passer. On l'a vu en France avec les Gilets jaunes. Hein. Les Gilets jaunes, c'est on va taxer pour ceci, ben, il y a une révolte, voilà. Donc, les peuples ne comprennent pas. Et ils ont le sentiment, en plus, que c'est à eux de faire des efforts. Et ceux qui leur parlent, c'est l'élite internationale. La grande élite internationale, c'est les hauts fonctionnaires internationaux que je connais bien, que je fréquente bien, qui sont des gens super intelligents, super bien informés, mais qui ne tiennent pas un discours qui peut passer. Là, on voit à Sharm el-Cheikh, jolie petite station balnéaire que fréquentaient les Russes, où les panneaux d'ailleurs sont en russe, et qui se saoule à la vodka en prenant des bains de mer à minuit avec des filles charmantes, importées, des Ukrainiennes avant, c'était. Et juste derrière, il y a le Sinaï, hein, avec des djihadistes et arrêtés par l'armée ou tués directement par l'armée, dans un régime qui est un régime sympathique, puisqu'ils nous achètent des frégates et des rafales, celui du maréchal Sissi. Et là, il va y avoir tous les chefs d'État. Et si vous allez en Égypte, au Caire, l'Égypte, c'est le Nil, comme disait Hérodote. Et c'est pas un égout, mais c'est en train de le devenir. C'est en train de le devenir. Alors, tous ces symboles-là que je dis de façon un peu anarchique, les gens le voient. Les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Et même quand le président de la République, Macron, vient et dit « Ah, il faut de la justice climatique et on va faire payer le Nord pour le Sud », vous allez payer pour le Sud ou vous allez acheter un climatiseur ? Donc, ce que je dis est un peu désespérant, mais en fait, je pense que, vous avez dit que je faisais l'association sur la Méditerranée. La Méditerranée devrait se réchauffer de 2 degrés. C'est formidable pour se baigner l'hiver, c'est beaucoup moins bien pour les poissons et pour sa santé quand même. Mais si vous me dites, est-ce qu'il faut mettre, je ne sais pas, que la Corse mette 200 millions pour faire baisser la température, ce à quoi elle n'arrivera jamais, ou est-ce qu'elle doit mettre 200 millions pour faire de la géothermie, faire de la biomasse, nettoyer les rivières en Corse, éviter que 50% de l'eau en Corse soit dilapidée dans les tuyaux parce qu'ils ne sont pas entretenus. Je vous dis, écoutez, la température, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut faire. En revanche, nettoyer les rivières, ça on peut tout de suite. Voilà. Donc, et cela, les gens le comprennent instinctivement. D'autant plus, et je m'arrête là parce que je suis trop long, mais on pourra en parler des heures. D'ailleurs, on en parle des heures. Et puis, je ne suis pas sûr d'avoir raison. Hein. Je reconnais que c'est un problème assez monumental. D'autant plus qu'on voit bien cette différence entre riches et pauvres, entre élites et non-élites, et que tout ça n'est pas très sain. Vous avez dit que les chefs d'État n'étaient pas là. Chine, Inde, États-Unis, si vous comptez le nombre de chefs d'État qui représentent le pays, c'est quelques milliards d'habitants qui ne sont pas à Sharm el-Sheikh. Qui y est, en fait ? Les Européens. Parce qu'ils se sont désindustrialisés et qu'ils ont fait les efforts en question. Mais tout en de ces désindustrialisations, ils importent les produits qui, eux, sont carbonés. La France, elle a baissé ses émissions de carbone de 30%. Oui, mais elle a importé des émissions, des produits qui, eux, ont fait augmenter les émissions de carbone de 70% en Chine, en Inde, etc. Donc vous voyez que pardon d'être aussi cruel peut-être sur le constat, mais vous voyez que tout cela montre qu'à Sharm el-Sheikh, la majorité de la population mondiale n'y est pas. Je pense qu'on ne peut pas arriver à régler les choses par ce genre de COP. D'autant plus, encore une fois, que ceux qui sont là-bas, comme l'Europe, c'est aussi un enjeu de pouvoir pour les pays. Parce que finalement, ce que va faire l'Europe, elle va taxer. Et elle va avoir, vis-à-vis des produits chinois et des pays qui ne font pas ce jeu-là. Et on les comprend. Et on a sans doute raison de vouloir taxer les produits importés qui, eux, sont carbonés, alors que nous, on impose à notre industrie d'autres choses. Vous voyez, on entre dans une logique qui est extrêmement complexe et qui a beaucoup d'enjeux de pouvoir derrière. Et instinctivement, les gens le sentent. Pour ma part, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour le climat, par exemple, localement. Je pense que insister sur des nouvelles technologies en ayant les sources d'énergie le plus proche de la consommation d'énergie, c'est évidemment l'avenir. C'est évidemment l'avenir. Par exemple, le nucléaire, c'est très très bien. Mais d'ailleurs, le nucléaire qui se développe, c'est plus les grandes centrales, comme les Français les voulaient. C'est des petites centrales. Malheureusement, on n'est plus dans la course, nous, la France, parce qu'on a un peu mis ça de côté. Hein. Dommage. C'est les Coréens, les Russes, avant la guerre. Vous voyez, si on peut accentuer la production locale au plus près du consommateur, je pense que c'est cela la voie d'avenir. Et à ce moment-là, on peut peut-être aussi, comme le disait Jean-Louis Borloo, la proposer à l'Afrique, par exemple. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire « Vous n'aurez pas d'électricité parce qu'il va faire chaud dans 50 ans ». En Afrique, ce n'est pas leur problème immédiat. Voilà. Pardon, j'ai été très long. Mais
non, c'était très complet.
Je vous ai brossé, à mon sens, quelques contradictions des différentes COP.
Une réaction, François Casasoprane.
Et je pense que ce qui a été dit fort justement s'inscrit aussi dans un contexte où on voit une fracture entre l'Occident et le reste du monde. C'est théorisé hein, en période de guerre. Ça se ressent dans beaucoup... Il y a beaucoup d'animosité, d'ailleurs, qui s'exprime à l'égard de l'Occident. Alors c'est pas directement lié aux questions environnementales, mais c'est quand même le contexte géopolitique et puis, on dirait, de manière un peu rapide, sociétale en ce moment. Et je pense que cette COP-là, c'est un moment de bascule. D'abord, elle se tient dans un pays du Sud. Donc c'est la première depuis plusieurs années. Elle se tient dans ce contexte. Et elle se tient quand même avec des questions très précises sur la table, y compris celles des corrections et des indemnisations. Il y a déjà des territoires perdus, notamment dans des pays pauvres, hein, des îles qui disparaissent, avec aussi des richesses culturelles, avec des richesses populaires qui disparaissent. La sécheresse fait encore plus de morts au sud. La question, c'est comment on répare ça ? Comment on vit avec ça aussi ? C'est pas simplement comment on limite encore un peu plus les gaz à effet de serre. Et je pense que du coup, on est à un moment de bascule. C'est peut-être la queue de la comète du sommet de Paris. C'est peut-être la dernière COP où on va parler des gaz, où on va faire parler des experts. Alors, ça doit déboucher, je rejoins Laurent Dominati, ça doit déboucher sur des choses très vertueuses dont d'autres acteurs s'emparent. Les régions, les intercommunalités, lorsqu'on est en France. Et ça doit déboucher aussi sur des questions un petit peu plus de politique internationale. Vraiment, quel est l'engagement, concrètement, quel est l'engagement de l'Europe, qui est une puissance commerciale, ça a été évoqué par Laurent Dominati, pour essayer de corriger tout cela. Je pense que l'Europe doit se tourner vers le Sud.
— Puis il va y avoir le problème des réfugiés climatiques.
— Tout à fait. Tout à fait. Mais tout ça, c'est, vous comprenez, c'est un peu les dégâts qui ont déjà été commis. Il faut vivre avec, maintenant. Et tant qu'on ne mettra pas cette question sur la table, ben on continuera les désordres géopolitiques, on continuera les crispations et on continuera la rancœur à l'égard de l'Occident. Et on va populariser un discours. Et on voit bien qui porte ce discours en ce moment. Ça se sent hein, quand on condamne la Russie, quand on condamne l'agression russe. Aux Nations Unies, il n'y a pas d'unanimité. Aux Nations Unies, il y a des gens qui pensent que des États et des peuples qui pensent que, même si c'est très mal ce que fait la Russie, il ne faut pas pour autant donner un blanc-seing à l'Occident. Et aujourd'hui, ces questions climatiques, elles peuvent cristalliser toutes ces divergences, ou au contraire, elles peuvent créer une sorte de sursaut. Je pense en tout cas que la parole ne doit plus être simplement aux experts. C'est un petit peu ce que je reproche à notre président de la République pour le coup, on peut saluer son activisme. Peut-être pour faire oublier que la France a été condamnée pour une action climatique, mais il a l'air assez volontaire. Est-ce qu'il a pris ce changement hein? Est-ce qu'il l'a intégré Proposer toujours que des experts débattent et mettent sur la table les choses, il faut peut-être maintenant, au contraire, aller un petit peu plus dans le concret, sur des choses très vertueuses qui se passent, qui peuvent être aussi du privé. Ça peut être pas simplement du public, hein, des fondations qui agissent. Puis pardonnez-moi, il y a quand même un aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, les grands gagnants de toute cette crise, c'est quand même les grandes industries qui pompent les richesses fossiles et donc qui polluent davantage. La question des super-profits, c'est peut-être aussi le moment de la poser, et de la taxation de ces super-profits.
Michel Barra.
Oui, mais si on attend de cette dernière COP des résultats concrets, on serait dans l'illusion. Je crois que c'est ce qui a été dit par François Clément, mais qu'en serait-il s'il n'y avait pas les COP? C'est-à-dire au moins, disons-nous, il y a quelque chose qui existe dans le discours. Il est évident que si on s'arrête sur le discours, celle de Paris a quand même amené quelque chose, je vais dire, dans la pensée. Mais le type de problème, c'est que la pensée et la réalité, non seulement sont écartées, mais s'éloignent. Et c'est ça que ça a été dit. Alors c'est vrai que c'est un sujet d'abord scientifique. Mais nous sommes dans un temps où la science n'est plus un idéal des sociétés. Où la raison n'est plus un idéal des sociétés. Où, en quelque sorte, c'est pas par la rationalité. Laurent, tout à l'heure, prenait l'exemple des gilets jaunes. Il faut bien savoir quand même que les décisions anti-carbone avaient été prises par l'unanimité de l'Assemblée nationale. Tout le monde avait voté cette taxe. D'ailleurs, je me suis à ce moment-là étonné de voir certains groupes politiques soutenir les gens qui étaient dans la rue après avoir voté la taxe. Et il y a eu un refus d'une partie non pas si populaire qu'on croit, mais du bas de la classe moyenne jusqu'au haut de la classe moyenne, parce qu'on allait troubler leur confort. Et parfois plus que le confort, puisque c'était aussi, je dirais surtout en milieu rural, leur possibilité de vivre. Donc on a bien là un véritable problème, c'est qu'on a une vision de la question de l'environnement. Je préfère utiliser le mot environnement que la question écologie, parce que j'ai l'impression que l'écologie est devenue une mystique, et je me méfie toujours des mystiques. Mais la question de l'environnement, on est un vrai, et l'environnement est une question humaniste. C'est ce qui entoure l'homme. Et donc il est évident que si on reste sur les propositions qu'on a, on va nuire à l'homme. C'est la première chose dont il va falloir convaincre les gens. Qu'il ne s'agit pas d'une vague idéologie, d'une défense de la nature avec un grand N, dont je ne sais pas ce que c'est, parce que la nature à un grand N, c'est quoi ? La physique nucléaire, c'est la nature. C'est les animaux, je suis un très grand ami des animaux. J'en sais rien. C'est tout ça à la fois, c'est un magma où on ne pense pas. Donc le problème, il va falloir aller dans la vie quotidienne des gens pour faire des petits progrès. Seule une politique des petits pas amènera un début d'amélioration. Autrement, il faut faire très attention à des discours qui vont qui parfois peuvent être sincères. Je pense que le discours français a été sincère, mais n'a pas été possible. Alors, la sincérité impossible, c'est pire que l'hypocrisie. Là, la question, elle est là. Maintenant, la question de l'origine. Indiscutablement, l'activité humaine est à l'origine. C'est pas la seule. Vous savez très bien qu'il y a eu un changement de l'inclinaison de l'axe de la Terre. C'est périodique, ça arrive. C'est la combinaison de tout ça qu'il fait. Il y a une partie qui revient à l'homme. Il faut effectivement traiter la partie qui revient à l'homme. Après, on essaiera d'améliorer celle qui revient des choses qui nous échappent. Donc on est ici sur un sujet qui, parce qu'il est important, qui, parce qu'il est tellement important qu'il donne des perspectives des plus sombres, n'est absolument pas compris par les gens. Où ils sont dans « après moi le déluge ». Le problème, c'est pas « après moi le déluge », c'est « après moi la sécheresse ». Ce qui va revenir d'ailleurs strictement au même, parce que ça va être la déluge dans les pays où il y a la mousson. Regardez le Pakistan d'aujourd'hui. C'est bien là, il faut revenir à de la raison. Et je pense profondément que c'est pas le politique qui va arranger les choses, du moins au sens habituel du terme. Si, ça va être le politique, mais pas que c'est par la science et la technique que des solutions vont être trouvées. Mais encore, ne faudrait-il pas réfuter et refuser tout ce qui est la science et la technique. Et une dernière chose, c'est une modification de ce qu'on appelle la croissance. C'est pas l'idée de la croissance zéro. Je pense que la croissance zéro est une bêtise. C'est peut-être la notion de la définition de ce qu'est un produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est aujourd'hui du quantitatif pur financier. On peut introduire dans le produit intérieur brut le bien-être humain. Si j'introduis le bien-être humain, des questions d'environnement vont y apparaître, des questions, par exemple, tout simplement de l'environnement de sécurité de type social, et la course par rapport au PIB sera modifiée. S'il y a quelque chose d'international qui doit être fait, c'est la modification de la définition du PIB.
Une petite nuance sur le propos de Michel, mais c'était contenu dans son propos. On va être dans quelque chose d'éminemment politique,
oui,
parce qu'on va intégrer la science au discours politique. Et c'est très, très, très important, parce qu'en fait, on a l'occasion, et c'est peut-être le motif d'espoir, en tout cas, moi, je l'espère, de redéfinir une ligne progressiste. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de progressisme, en fait. Hein. On a du puritanisme, on l'évoque souvent, hein, et du puritanisme à la mode Trump, mais on a du puritanisme aussi gauchiste, d'essence gauchiste, qui déteste tout ce qui est collectif, qui déteste tout ce qui est bien commun, qui déteste, qui voit de la bien-pensance partout. Ça, c'est une forme d'écologie aussi, hein, en ce moment, on le voit. Ben, le progressisme, c'est aussi savoir utiliser la technique, savoir utiliser les infinies ressources intellectuelles de l'être humain pour essayer de faire face au défi du temps présent. Et le défi du temps présent, il est aussi d'arriver à vivre, à respecter et à préserver notre environnement. Et je crois que là, on est dans un vrai discours progressiste. Oui. La position française, où elle n'est pas très confortable, c'est que longtemps, c'est la théorie du ruissellement, en matière écologie, que le ruissellement, c'est pas génial. Longtemps, on a pensé qu'en fait, il suffisait de subir, d'accompagner, et que tout le monde pouvait vivre là-dedans. Et la position française, elle est un petit peu difficile, parce qu'il faut qu'on revienne aussi à ce qui a fait l'essence de la République. Donc il faut aussi que toutes les formations républicaines, ou qui se disent républicaines, viennent sur ce champ, et pas simplement en subissant, en espérant que les grands groupes feront tellement de réformes que tout le monde sera content d'être chauffeur Uber ou livreur de denrées, de services ou fournisseur de services. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse à notre production. C'est quoi notre production aujourd'hui ? C'est certainement pas la révolution industrielle du 19e siècle, non, mais c'est autre chose.
C'est une révolution. Je partage tout à fait la correction que tu as fait à mon discours sur la question du politique. Il s'agit aujourd'hui de remettre une vraie politique scientifique, une vraie politique technique. Bon, je crois qu'on est sur aussi un problème philosophique. Nous sommes sortis d'une forme de progrès qui a été un vrai progrès, celle qui est née avec Descartes, devenir maître et possesseur de la nature. C'était d'ailleurs une vision où seul l'homme n'était pas un engin mécanique, même les animaux étaient des automates. On sort de cela. Ce n'est pas une raison pour revenir à une harmonie avec la nature qui est celle du temps des Grecs, même si j'aime bien la philosophie grecque. Et donc c'est bien de renouveler la question du progrès. Et ce qui se pose aujourd'hui, c'est que pour les gens, c'est que la question environnementale leur apparaît être comme une régression, alors que c'est le progrès indispensable qu'il va falloir défendre.
Laurent Dominati, est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque d'incarnation de la cause environnementale ? Pour la jeune génération, on va parler de Greta Thunberg.
Oui, non, c'est sérieux, quoi.
Mais je parle aussi en France, avec Europe Écologie Les Verts. Est-ce que l'environnement a les représentants qu'il mérite ?
Écoutez, moi, je vais pas contredire Clémenceau. Je trouve que l'écologie est une chose vraiment trop sérieuse pour la laisser aux écologistes. Ça n'est, quand je vois d'ailleurs leur attitude sur le nucléaire, il suffit de voir ça. Bon, que ce soit en France, on a quand même fermé Fessenheim à cause d'eux. En Allemagne, ils ferment les centrales nucléaires, c'est avec Merkel. Maintenant, ils les prolongent et ils ont rouvert les centrales au charbon. Et le ministre écologiste vert le ministre vert de l'écologie, pardon, et de l'environnement, il y a 15 jours ou 3 semaines, a dit « Ah non, franchement, la France, là, elle nous a plantés, hein, parce que avec la panne de ces centrales nucléaires, on est obligé d'ouvrir nos centrales à charbon. » Bon, il a raison, on n'aurait pas dû tomber en panne, d'accord, mais qu'un vert écologiste rouvre des centrales à charbon, c'est bien de la France, c'est un peu fort de café tout de même. Hein. Alors, il n'était pas content, parce que justement, il était obligé d'avaler son chapeau en prolongeant l'activité des centrales nucléaires allemandes, des 3 qui restent, pour dire que finalement, ils ne vont pas fermer dans 2 ans, mais dans 3. Alors, lui, il n'était pas content. Mais enfin, donc vous voyez toutes ces contradictions quand vous parlez d'incarnation. Non, je pense vraiment que c'est un défi, comme l'a dit Michel, humaniste. Pardon, c'est dommage d'être tous d'accord là, mais c'est un défi effectivement progressiste, parce que c'est la définition, plutôt c'est la validité d'idées progrès, comme l'a dit François Casasoprane. C'est qu'effectivement, on a l'impression qu'on vit dans des réactions, dans des régressions, dans des radicalisations, qu'elles soient identitaires, qu'elles soient nationalistes, qu'elles soient même religieuses, hein, qu'elles soient puritaines, qu'elles soient... Et en Corse aussi, hein, faut pas qu'on se soustrait. Et donc on n'a plus souvent cette capacité de dialogue et qu'on n'a plus en commun, en tout cas ça s'effrite, moi je suis, j'espère qu'on l'a gardé, on n'a plus en commun justement cette idée de progrès, cette idée que la génération d'après vivra mieux que la génération d'avant. Et c'est vrai que la génération qui vient, elle a le sentiment, à tort ou à raison, qu'elle vivra moins bien. Moi, je pense qu'elle vivra mieux et qu'elle se trompe. En tout cas, je l'espère et c'est mon espérance. Parce que justement, je reste un progressiste de droite, mais progressiste. Mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, droite égo, ça ne veut plus dire grand-chose maintenant. On en parlait tout à l'heure. Mais je pense que la génération pourra vivre mieux, justement, parce que j'ai foi en la science, en la technologie, en l'imagination humaine, en la capacité d'adaptation des êtres humains, en leurs ressources infinies, à condition qu'on les laisse un peu faire et qu'on les laisse trouver un certain nombre de choses. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit une question d'incarnation politique. Je crois au contraire qu'une incarnation serait un problème.
Juste un petit exemple de ce que peut faire le progrès. Les gens qui ont pensé qu'on pouvait mettre l'ensemble des savoirs humains qui étaient contenus dans toutes les bibliothèques sur une puce électronique et qui serait accessible par tout le monde de façon égale, que vous soyez dans un township en Afrique du Sud ou que vous soyez dans un beau quartier parisien. Ça, c'est du progrès. C'est pas tout à fait d'aller mettre du ketchup sur des œuvres d'art. C'est pas tout à fait l'idée qu'on peut se faire du progrès. Et je pense pas que c'est comme ça qu'on fera avancer la cause environnementale. Ce qui est vrai, c'est que c'est la cause d'une génération. Ça, c'est vrai. Et ça, l'engagement total d'une génération sur cette cause, c'est plutôt quelque chose d'optimiste et c'est plutôt quelque chose de favorable, je pense, pour le vivre ensemble.
Alors vous parlez de génération, vous avez également mentionné les territoires. Est-ce que la Corse a-t-elle ou plutôt est-elle en train de rater le virage écologique ? Je parle encore une fois du point de vue des politiques publiques, parce que des initiatives privées existent. On a parlé de start-up, d'associations, l'innovation aussi, notamment à travers l'université de Corse, se porte plutôt bien. Qu'en est-il du virage écologique ? Michel Barra, pour la Corse.
Avant de répondre directement à votre question, ce qui a été dit confirme la correction nécessaire de mon discours qu'avait François Soprane. Quand je parlais de « ça, c'est pas le politique qui changera », c'est parce qu'effectivement, je pensais au parti écologique.
C'est bien de le préciser,
et
Michel.
Et donc, ce n'est pas la politique
dans son ensemble. Beaucoup tourne autour, quand même. Là,
non, mais autant le dire. Alors, prenons maintenant l'exemple des territoires. Premièrement, la question de l'environnement, c'est ce qui entoure les gens. Donc il est impossible de poser la question de l'environnement et de l'écologie sans avoir le souci du local. Même si ensuite on monte vers ce qui est le plus élevé, le national et l'international, parce que ça c'est le problème, ce qui apprend d'ailleurs l'écologie scientifique de l'interdépendance des différents milieux, si on ne traite pas d'abord le milieu qui est là, qui est à côté de nous, bien entendu, on va vers l'échec. Des territoires. Mais je vais prendre un exemple qui est un exemple corse. Je ne sais pas, moi, quelle est la solution pour les déchets. J'ai une petite idée, mais ce n'est pas nécessairement la bonne. Mais arriver à des situations dans lesquelles on refuse d'étudier une solution, qui est celle, par exemple, de l'incinérateur. On sait aujourd'hui qu'un incinérateur dégage du carbone à peu près, de se dégage pendant un an un gros camion. Pas plus. On sait ce que pollue sur les nappes phréatiques et sur l'eau l'enfouissement systématique. Une position raisonnable politique. Et là, je te donne raison, François. Elle est la suivante. C'est de comparer les solutions données, choisir, là, non pas la meilleure, mais la moins mauvaise, parce que toute activité humaine, comme toute activité, pollue. L'homme pollue comme la chèvre pollue. Bon, maintenant, c'est pas parce que la chèvre pollue qu'on va tuer les chèvres. Bon, maintenant, c'est pas parce que l'humanité pollue qu'il va falloir tuer l'humanité. Nous avons aujourd'hui une vision de l'écologie qui est anti-humaniste. Donc là, il y a une responsabilité locale qui est celle... Un, de ne pas masquer les problèmes. Deux, de les poser et de comparer les solutions possibles sans en évacuer une a priori. Et là, nous sommes ici loin du compte. Il y a la question des déchets, la question de l'énergie. On revient sur ces choses-là. On pourrait avoir une vision énergétique catastrophique sur la Corse pour les gens. Après tout, la Corse fait partie des 19 départements français dont on pense qu'il va avoir des délestages cet hiver. C'est pas le nucléaire qui va faire qu'il y ait des délestages en Corse, parce que apparemment, je n'ai pas encore vu de centrale nucléaire en Corse. Le problème, c'est que j'ai vu une insuffisance de production d'énergie. La solution, c'est effectivement les petites structures sur la Corse. Donc effectivement, nous sommes sur des problèmes qu'il faut d'abord traiter localement pour pouvoir ensuite les poser à un autre niveau.
Alors avant que vous ne réagissiez, quelques chiffres, notamment sur les déchets. 244 000 tonnes, c'est la quantité de déchets produits en Corse durant l'année 2021, selon le rapport annuel de l'Observatoire des déchets ménagers de Corse, rattaché au CIVADEC, une production en hausse de 8% en un an. Cela représente 721 kg par habitant. La production globale de déchets est en augmentation constante depuis 2017. Alors les raisons, la croissance démographique, plus de 1% en moyenne par an contre une moyenne nationale de 0,4%, et la hausse de l'activité touristique. S'agissant maintenant du traitement des déchets, 62% de ces ordures sont enfouies, contre 21% au niveau national. Le tri progresse malgré tout, 12 points de plus en 6 ans, soit une part de 38%. Enfin, le coût global du traitement reste très élevé, 268 euros par an et par habitant, contre 152 euros en moyenne au niveau national, en zone touristique. Et que dire d'autre, entre 2019 et 2020, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a augmenté de 4,8%, François Casasoprane.
Là, avec ces chiffres énumérés comme ça, vous comprenez aussi pourquoi il est très difficile d'avancer sur la question. Voilà, tout nous fragilise. Tout simplement parce qu'on paye une sorte de manque de résolution dans l'action. C'est-à-dire que quand on a ces chiffres, tout le monde le sait, il faut avoir des perspectives fiables. Et on ne peut pas, à longueur de champ, dire « on va réduire les déchets » et ensuite on traitera, que ce soit par l'incinération ou autre chose.
Ou autre chose.
On aura en tout cas un dimensionnement des ouvrages
fiables. Mais on
ne
peut pas débattre d'une stratégie, en fait, pour
non,
tout
mais
ça.
Les stratégies, elles y sont. Je vais ouvrir plus largement sur l'énergie. Sur l'énergie, la Corse a été en avance. Elle a voté sa programmation pluriannuelle de l'énergie avant quasiment toutes les régions. Oui. Un gros travail. Peut-être trop ambitieux, on peut dire. Peut-être des paroles. Mais en tout cas, un très gros travail avec des associations mobilisées, avec des élus travailleurs de tous bords, avec des idées, peut-être maintenant réactualisées. Certainement, elle doit l'être. Manque un peu de résolution dans l'action. C'est-à-dire que ces questions-là, malheureusement, elles sont débattues quand maintenant ? Depuis ces 3-4 dernières années, elles sont débattues quand ? Elles sont mises sur la table quand ? Quand il y a une crise. La dernière fois qu'on a parlé des déchets, c'est quand il y a une crise et que les ordures se sont amoncelées dans les rues d'Ajaccio, de Bastia. Voilà. Peut-être aussi que c'est ça la politique. La politique progressiste, comme tout le monde l'appelle de ses voeux, c'est peut-être ça aussi. C'est faire des choix. Faire des choix, assumer. Mais c'est très difficile quand vous voulez dimensionner un ouvrage et que vous ne maîtrisez même pas le flux entrant. C'est-à-dire que vous parlez de diminuer et ça augmente. C'est difficile après. On va recommencer les débats sempiternels. Il faut un incinérateur, non plutôt deux. Si on ne fait pas d'incinérateur, on enfouit un centre, deux centres.
Centres
on voit bien que ça repose sur du sable. Il faut maintenant de la résolution dans l'action. Ça commence par le levier fiscal, ça commence par la pédagogie, ça commence aussi par regarder dans les règlements d'aide aux communes, celles qui sont vertueuses, celles qui ont des projets, celles qui ont des besoins. Vous savez, il y a un indicateur très fort. Hein. Quand vous voulez savoir si une commune a des besoins réels, vous regardez ses dépenses d'équipement par habitant. Quand elle investit, c'est qu'elle répond à des besoins. Quand elle n'investit pas, soit elle n'a pas les moyens, et ça, généralement, on le sait avant et on peut l'aider, soit c'est qu'elle se contente politiquement de ce qui se passe.
Ouais. Alors François, moi, je vais être très terre-à-terre, hein, mais est-ce qu'une partie du problème ne vient-elle pas de manière très commune, vulgaire, de l'antagonisme entre le CIVADEC et la collectivité de Corse ?
Non, moi je pense surtout que la difficulté, elle vient, comme je vous le disais, d'une résolution dans l'action. C'est-à-dire concrètement, quelqu'un doit prendre ses responsabilités et dire « voilà moi ce que je veux pour la Corse ». Voilà, je l'assume complètement. Ça me semble quand même assez extraordinaire. Maintenant, on a une famille nationaliste qui est à la majorité depuis plusieurs années. Il y avait avant la gauche, il y avait avant la droite. C'est assez facile d'être contre les barrages, contre les centrales photovoltaïques, contre les centrales au fioul lourd, contre les centrales au gaz, contre les incinérateurs, contre les centres d'enfouissement. C'est assez facile d'être contre. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'on paye aujourd'hui. Et il ne faut pas jeter la pierre forcément à ceux qui sont aujourd'hui en situation. Et maintenant, il faut en sortir. Maintenant, il faut être pour quelque chose et l'assumer. Les barrages, on est pour ou on est contre. Mais on ne peut pas être pour en général et contre quand il y a un projet.
On va en parler. Laurent Dominati, sur les déchets déjà.
Oui, déjà, sur les déchets, comme sur beaucoup d'autres sujets, on prend des postures, on dit des phrases et après on est prisonnier. Voilà. Alors après, on ne peut pas agir parce qu'effectivement, c'est engagé vis-à-vis de tel ou tel pour dire qu'on va faire le zéro phrase, hein, 100% déchets, 100% de tri. Bon, peut-être dans 40 ans, notre Corse sera une montagne d'ordures. Alors c'est parfait. Hein. C'est parfait. En théorie, c'est parfait. Il faut pas de déchetterie. Il faut qu'on trie, on fait le tri 100%. Ils ont raison, les militants de cette association. C'est magnifique. Et en plus, ils s'appuient sur des exemples qui fonctionnent en Alsace, en Toscane, etc. Parfois, ça marche. Mais enfin, là, on n'en est pas là. On est les plus mauvais. On est les plus mauvais à cause justement des promesses intenables, des discours trop faciles et souvent irresponsables. Et puis un petit truc quand même, on n'en parle pas, mais il y a quelques intérêts, non ?
Ouais,
vous ne croyez pas que si on paye deux fois et demi ce qu'on paye sur le continent, c'est pas perdu pour tout le monde ?
Certainement.
Hein,
certainement.
C'est pas perdu pour tout le monde, quand même. Alors, il faut mettre effectivement sur la table, ça demande beaucoup de courage aussi, hein, parce qu'effectivement, il y a des intérêts très puissants. Voilà. Alors, sur les déchets, c'est une situation qu'on a souvent dénoncée ici, dans cette radio. On n'est pas les seuls, elle est dénoncée fréquemment, à chaque crise. Mais c'est vrai qu'on pourrait quand même espérer, au bout d'un moment, attendre une solution, quoi. Je ne sais pas, moi... Enfin, je pense que la pire des solutions, c'est l'incinération. D'autant que l'incinération, c'est dans deux endroits. Alors, on parle toujours dans un troisième, hein. Mais enfin, l'enfouissement.
C'est la pire.
L'enfouissement, ce sont des centaines et des centaines de camions. Ça veut dire que non, vous payez les camions, vous bousillez les routes, vous ne faites pas le tri, vous polluez les phréatiques. Enfin, je veux dire, je vois pas comment, encore une fois, la politique et les décisions, on prend toujours la moins mauvaise possible. Bien sûr qu'il n'y en a jamais d'excellentes, comme disait Michel, et de parfaites. Non, il n'y en a pas. Il faut reconnaître qu'il n'y en a pas. Donc on fait au mieux. Mais au mieux, ce n'est pas choisir le pire parce qu'on ne choisit rien. Voilà, c'est tout.
Sur l'enfouissement, et ensuite je donne la parole à Michel Barra, cet été, deux arrêtés préfectoraux ont autorisé les derniers centres d'enfouissement à augmenter leur tonnage annuel maximal. Vigeanel 2 pour enfouir 90 000 tonnes de déchets résiduels en 2022 et Prunay-Diffiomore 70 000 tonnes. Voilà, tout pour éviter une grave atteinte à la salubrité
publique.
Et
c'est l'État qui est obligé de venir faire quelque chose de dérogatoire en urgence parce qu'il y a un risque sanitaire.
Oui, c'est ça. Oui.
Sanitaire. Et là, j'étais surpris. D'ailleurs, personne n'a dit, mais enfin, de quoi l'État se mêle, c'est notre responsabilité.
Michel Barra.
Oui, écoutez, Laurent Dominati a dit quelque chose qui est parfaitement pertinent et que je vais combiner avec ce qu'a dit François. Un peu de République, c'est-à-dire moins d'intérêts privés. C'est ce qu'il dit. Pourquoi ne trouve-t-on pas de solution ? Parce que nous sommes incapables de faire la promotion de l'intérêt général sur les intérêts privés. Il est là le vrai problème. Et sur la question des déchets, c'est quand même énorme. C'est énorme.
Ah, puis c'est un privé, très très privé. Hein.
Mais c'est du privé, privé. Moi qui suis plutôt...
C'est pas un privé ouvert à la concurrence, hein, c'est pas
Mais c'est ce que j'appelle l'intérêt privé, puisque, on va dire philosophiquement, je suis plutôt... Mais philosophiquement, parce que c'est-à-dire, ça, pour moi, c'est régulé, libéral. Mais régulé. Bon, mais cela dit, si on ne traite pas ces problèmes, si on a peur de ces intérêts privés, on a peur des gens qui viennent faire la loi dans l'Assemblée corse, on va avoir encore plus peur de ceux qui sont, pour nous, Corses, des très gros intérêts économiques. Donc... La question, c'est, on manque de République, qu'elle soit corse ou qu'elle soit nationale, et nous manquons d'un peu de courage politique. Ce que dit le terme qu'utilise François, c'est résolution. Non, c'est simplement de courage. Ben, il est évident que nous avons choisi la pire des solutions, l'enfouissement. C'est la pire. Alors l'incinération, c'est peut-être pas la meilleure, parce qu'il n'y en a pas de meilleure. Mais là, nous mettons en danger la salubrité de nos eaux, la salubrité de nos terres, et l'État même est obligé d'intervenir pour autoriser, d'une manière dérogatoire, des enfouissements supérieurs. On avait quand même fait mieux... on avait réussi quand même à exporter nos déchets pour les enfouir ou les incinérer ailleurs, Toulouse, Marseille, au-dessus de Marseille, alors que nous sommes dans les pires des résultats qui soient. Là, j'ai jamais compris d'ailleurs comment on pouvait être nationaliste, autonomiste, et dire « c'est les autres qui vont s'occuper de mes déchets ». Je trouve qu'il y a une contradiction, mais terrible. Si on veut revendiquer pour la Corse une certaine autonomie, que la Corse commence par s'occuper de ses propres problèmes. Et qu'elle trouve, pas qu'elle trouve la solution, qu'elle trouve des solutions qui sont des solutions qui améliorent. Parler de la taxe foncière ici, sur la taxe foncière, c'est là qu'est souchée la taxe de ramassage des ordures ménagères. Elle est démente, la taxe des ramassages ménagères, généralement encore. J'ai habité à Ajaccio, je ne payais pas de taxe foncière parce que c'était un logement de l'État et l'État, ça ne bosse pas. Mais la partie de taxe de ramassage des ordures ménagères, je la payais. Plus de 1 000 euros pour les particuliers. C'est délirant. Alors, en plus, la question par rapport à la population, qu'est-ce qui se passe? Le service n'existe pas. La question de fond n'est pas traitée et le coût devient insupportable. Et qu'est-ce que vous voyez en Corse? La multiplication des déchets sauvages où les gens déversent n'importe où. Donc, là-dessus, le problème de la résolution du courage politique et même du courage, je veux dire, économique dans ce sens-là, se pose totalement.
François Cadassopral.
Question éminemment politique. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, sur la question des déchets, mais de l'énergie, des transports, du foncier, de l'habitat, tout ça étant lié quand même à notre environnement, ce qu'évoquait Michel Barra tout à l'heure, ce qui nous entoure immédiatement et qui va avoir un impact direct sur notre façon d'agir. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, ne serait-ce que d'avoir une position, avant même de dire la meilleure ou la moins pire? Est-ce qu'on est capable d'avoir une position et de la mettre en débat? Ma crainte, c'est qu'on voit quand même beaucoup de signaux d'alerte en ce moment, où tous les représentants élus, quel que soit leur bord, sont empêtrés dans leurs contradictions. En matière économique, en matière maritime, littorale, en matière déchets, on est un petit peu tous empêtrés dans nos contradictions. Et c'est pas forcément le moment quand on voit les regains de tension dans la société corse. Et quand on voit aussi le vote contestataire, le vote parfois extrêmement défiant, voire parfois intolérant qui s'exprime, ça fait quand même peur. Donc il faudrait déjà se concentrer, je pense, sur ce que sont censés faire les élus. Déposer un dossier, mettre sur la table un dossier. Il sera impopulaire quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il sera impopulaire. J'ai fait partie d'une majorité qui a fermé une décharge à ciel ouvert. Il ne faut pas croire qu'on a reçu des félicitations. Les taux d'imposition ont augmenté. Les communes qui venaient jeter librement et gratuitement sous les fenêtres des Ajacciens ont dû payer un service. Ça ne se fait pas sous les applaudissements. Mais pourtant, ça s'est fait. Voilà. Et je pense que ça s'est fait ailleurs après. Donc très bien. Et c'était quand même mieux qu'aller faire payer par les crédits de l'Union européenne, mettre de la terre sur des déchets. Voilà, ils servent à autre chose. Et je pense que c'est important quand même de l'avoir fait. Mais il faut mettre ça sur la table. Ça sera débattu, ça sera amendé, certainement. S'il y a un vrai débat démocratique, ça sera amendé, corrigé, peut-être annulé par un juge administratif. Mais au moins, ça sera sur la table et il y aura une solution. Et c'est comme ça que l'intérêt général va se retisser. Je vais pas dire qu'il va s'affirmer parce que le chemin est long quand même. On vient d'assez loin au cours des 10 dernières années. Ça a beaucoup reculé. Je pense qu'il va en tout cas se retisser.
On continue sur notre lancée avec la problématique énergie. Problématique ou plutôt, devrais-je dire, problème, vu le contexte international actuel. Quoi qu'il en soit, l'accord s'est fixé l'ambition de parvenir à 100% d'énergie renouvelable en 2050. En attendant, l'île compte deux centrales thermiques, au Vadj, près d'Ajaccio et à Luchan, qui fournissent près de 40% de l'énergie. 34% reviennent aux énergies renouvelables, hydrauliques et photovoltaïques. Et deux câbles, Sarco et Sarcoy, pour l'interconnexion, représentent 27% du trépied énergétique. Alors en 2023, l'accord a pour objectif d'atteindre le palier des 40% s'agissant des ENR, donc les énergies renouvelables. Pas de gaz. Le Kios. Alors là encore, tous les plans, projets sont régulièrement reportés, notamment les projets de centrales au gaz et au biocarburant qui semblent être la dernière piste privilégiée. On patauge encore, Laurent Dominati.
si on regarde les... Il faut que la centrale des Vases, les premiers plans de remplacement, c'était 2002-2003, je crois.
C'est ça.
Donc on peut toujours faire des programmations d'énergie comme on peut faire des plans d'enfouissement des déchets et dire on va être autonome à 100%, on va faire ceci. Mais je trouve que c'est une très bonne politique, hein, il faut le faire. Je trouve qu'il faut le faire comme pour les déchets, il faut que la Corse traite des déchets et il faudrait que la Corse produise sa propre énergie et là on deviendrait... Et moi, vous savez, je suis un indécrottable optimiste de la volonté, comme disait Michel, je pense que comme on est à zéro et parfois dans les déchets même à moins de zéro... tout est faisable. Donc, de ce retard, faisons une chance. Hein.
Mais finalement,
puisqu'on
doit
construire une nouvelle centrale, faisons la meilleure et la plus moderne du monde. Et donc, après tout, plutôt que d'avoir du gaz, bah, c'est vrai. Et là encore, c'est le préfet qui a proposé qu'elle soit biogaz. Bah oui, quand on voit les prix du gaz, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je sais pas si c'est le biogaz ou l'hydrogène vert. En tout cas, je sais que ce que je souhaite pour la Corse, c'est l'énergie produite localement, avec des diversités de production énergétique.
Absolument.
Parce qu'il ne faut pas qu'une centrale, ce qu'on a dit tout à l'heure est exact aussi pour la Corse, il faudrait au maximum produire notre propre énergie, et même dans les villages, on peut le faire par le solaire, par la géothermie, par la mer. On peut faire beaucoup de choses, et moi je rêve toujours d'une Corse qui soit le modèle justement de la préservation de l'environnement, ou plutôt d'une économie de l'environnement. Et on peut le faire effectivement, mais pas en ne prenant pas de décision, en prenant aussi parfois quelques risques, et en ayant effectivement la conviction de ne pas faire plaisir à tout le monde. Donc le préfet a proposé ça. L'Assemblée n'a pas encore voté, parce que c'est l'Assemblée de Corse qui est responsable et qui doit voter cette modification sur la centrale du Vaz. Elle aurait pu le faire à la dernière session. Les travaux ayant été interrompus, ça a dû être reporté à la prochaine, je ne sais pas, je ne suis pas assemblé. Elle le fera très certainement, parce qu'il me semble que c'est une solution intelligente. Et si elle ne l'est pas, je pense qu'elle sera remplacée par une solution plus intelligente. Car en fait, il faut simplement faire des choix. Alors, oui, je pense que... Vous savez, là, à Caldanich, là, à Ajaccio, il y a une association qui s'est créée. Et j'ai lu un papier qui disait que l'eau, j'avais complètement oublié, sortait à 40 degrés. Vous rendez compte, l'eau qui sort à 40 degrés ? Si elle sort à Caldanich, tout d'un coup, je l'ai regardé ailleurs en Corse, il y a d'autres sources comme ça, chaudes.
Il y en a plein.
Ça veut dire que, géologiquement, il y a une capacité de géothermie en Corse phénoménale. On est un pays béni des dieux, en tout cas des dieux du sous-sol. Pas parce qu'on a du pétrole, parce qu'on a des géothermies. On a la mer, on peut faire beaucoup de choses. Alors, c'est facile de parler à la radio, hein, je ne mésestime pas les difficultés, mais il faut être humble, regarder ce qu'ils font en Bretagne, en Ardèche, en Alsace, en Toscane, en Suisse, et puis les copier, voilà. On n'a pas inventé quelque chose, on a décidé de faire comme les autres, comme les meilleurs.
Michel Barra et ensuite François Casasoprane, pour conclure, vous avez été tous très inspirés aujourd'hui. Alors rapidement, Michel.
Alors très rapidement, je vais reprendre le terme que utilisait Laurent. Économie de l'environnement, mais au sens strict du mot économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie au point de départ ? C'est de mettre de côté pour pouvoir faire demain. C'est économiser. Je préfère ça d'ailleurs au terme de sobriété, qui est un vocabulaire moralisateur qui ne peut qu'échouer. C'est-à-dire faire une économie de l'environnement, c'est-à-dire d'utiliser les ressources que nous avons. La Corse est quand même un pays où il y a du soleil. Le développement du solaire s'impose. Donc c'est la diversification des sources d'énergie qui économisera notre environnement. Mais pour ça, il faut être capable d'avoir un peu de résolution et un peu de courage. C'est tout.
C'est vrai qu'on pointe souvent du doigt les manques. Il y a aussi des initiatives sympas. Moi, je pense que les opérateurs possibles pour un rebond énergétique et environnemental de la Corse, c'est aussi les communes. Il faut regarder ce qui se passe. On a en Corse du Sud une commune qui a décidé de turbiner dans ses canalisations d'eau potable. C'est innovant, c'est très fort. Et on crée comme ça de l'énergie. Et quand on voit les distributions des services publics d'eau potable des communes ou des intercommunalités, ça s'y prête beaucoup. Il y a des amenées d'eau, on parle du canal de la Gravonne, sur lesquels il y a des chutes, il y avait des moulins avant, donc il se passait un certain nombre de choses en Corse. Ça, les communes peuvent le faire. Les terres communes, souvent en terrasse, parce qu'il y avait des jardins, ben elles se prêtent au photovoltaïque. Et puis quand on regarde ailleurs, c'est souvent aussi des communes, en Alsace notamment, qui ont pris en compte la distribution d'électricité elle-même. Pas toujours des délégations de services publics à l'opérateur national, qui parfois, ces tarifs réglementés, ils nous arrangent beaucoup. Beaucoup.
Ils nous arrangent beaucoup.
Énormément.
Parce que l'électricité produite en Corse, c'est deux fois plus cher que ce qu'on paye.
Voilà. énormément. Et ça aussi, c'est un enjeu très fort pour l'énergie de la Corse, c'est ce maintien. Mais dans certains endroits, bah, il est peut-être surdimensionné et c'est peut-être pas ça, donc c'est pas forcément dans cette catégorie-là. Les communes ont la capacité, dans milieu rural ou dans des milieux en développement périurbain, de faire un certain nombre de choses. Et ont confiance aux communes aussi. Ça rejoint la politique et c'est peut-être un motif d'optimisme.
C'est bien, on va finir sur cette touche optimiste, François Casasopra. On aurait aussi pu évoquer le développement économique avec le tourisme durable, qui a à voir évidemment avec l'environnement, ce sera pour une autre fois. Je vous sens très motivé pour continuer la discussion, et c'est parfait. Laurent Dominati, Michel Barra, François Casasopra, merci de m'avoir accompagné, on se retrouve très bientôt. Revue de Corse, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue tout le week-end, vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h. Et dimanche à 18h ainsi que sur le site internet corsicaradio.fr. On se dit à très vite. Salut !